avec Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Interpol demande au Liban d'arrêter Carlos Ghosn, mais l'ancien patron de Renault-Nissan ne devrait pas être inquiété. On en sait un peu plus en revanche sur les conditions de sa fuite du Japon. Nous irons à Beyrouth et en Turquie où une enquête a été ouverte. Inquiétude en Australie, de nouvelles températures caniculaires sont prévues samedi, faisant redouter une progression des incendies. Touristes et habitants doivent être évacués du littoral du sud-est. La charpente de Notre-Dame de Paris devrait être reconstruite à l'identique. C'est la solution qui apparaît comme la plus rapide à mettre en œuvre, la moins chère et la plus fiable. Isabelle Souquet nous expliquera pourquoi. 29e journée de grève contre la réforme des retraites et un dialogue toujours à l'arrêt. Les transports sont moins perturbés, mais les opposants à la réforme préparent de nouvelles actions. Une notice rouge d'Interpol est arrivée à Beyrouth. L'Organisation internationale de police criminelle a transmis aux autorités libanaises un avis de recherche internationale visant Carlos Ghosn, poursuivi au Japon pour malversation financière. L'ancien PDG de Renault-Nissan sera-t-il convoqué dans le cadre de cette procédure? Il est encore trop tôt pour le dire, mais quoi qu'il en soit, le Liban ne procède jamais à l'extradition de ses ressortissants. Carlos Ghosn est arrivé au Liban dans la nuit de dimanche à lundi après s'être enfui du Japon. Une exfiltration menée par une société de sécurité privée. Notre envoyé spécial à Beyrouth, Aurélien Colli, a pu interroger à ce sujet un spécialiste de ce genre d'opération.
Une exfiltration professionnelle selon l'entourage de Carlos Ghosn. Confirmation de Fabien Tabarly, un officier français reconverti au Liban dans le conseil en sécurité aux entreprises.
Ça a été monté par une équipe qui est quand même assez bien rodée à ce type d'opération. Des gens qui ont déjà travaillé dans des services ou des unités qui ont l'habitude de faire ça. Clairement, ça ne s'improvise pas.
La clé d'une telle opération, le secret selon cet ancien militaire, seulement un cercle ultra restreint mis dans la confidence. Beaucoup de coordination et de préparation aussi avant l'exécution.
Évidemment que les équipes étaient là-bas bien en amont parce qu'il y a énormément de repérages à faire, des contacts à prendre, des essais à faire, oui, absolument. Et l'organisation de tout le déroulement de l'opération qui aura été exécutée parfaitement.
Tellement parfaitement que ce spécialiste s'interroge même sur la société privée qui a mis en place cette évasion, comme l'ont confié des proches de Carlos Ghosn.
Au Liban, des compagnies de sécurité qui seraient capables de faire une telle opération, à ma connaissance, il n'y en a pas. Effectivement, ils ont une grande expérience des conflits. Mais là, c'est vraiment de l'horlogerie. La société ou l'équipe qui est menée cette opération, je suis même convaincu que ce n'est pas une équipe libanaise, absolument pas.
Et Carlos Ghosn dément que sa femme et sa fille aient joué un rôle dans son départ du Japon. Il affirme avoir organisé lui-même son départ. Une perquisition a eu lieu au domicile provisoire de Carlos Ghosn à Tokyo et en Turquie, où une enquête est ouverte pour comprendre comment il s'est enfui en passant par Istanbul. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue. La correspondance d'Anne Andlauer.
Quatre pilotes, deux employés d'une société travaillant à l'aéroport Atatürk et un responsable d'une entreprise de fret aérien. C'est avec ces arrestations que la justice turque vient de lancer une enquête pour déterminer comment Carlos Ghosn a pu transiter par un aéroport d'Istanbul avant de se rendre à Beyrouth. Selon le quotidien national Hurriyet, quotidien pro-gouvernemental qui a publié le premier l'information sur les gardes à vue, les autorités d'Ankara n'ont pas été informées de l'entrée de l'homme d'affaires sur le territoire turc et pas davantage informées de son départ. En clair, il y aurait donc transité clandestinement. Citant des sources au ministère de l'Intérieur, le quotidien affirme que Carlos Ghosn aurait atterri à 5h30 du matin heure locale le 30 décembre à bord d'un avion en provenance d'Osaka appartenant à un homme d'affaires turc. L'appareil se serait garé dans un hangar, deux personnes en seraient descendues immédiatement pour les formalités douanières et peu de temps après, un autre avion privé aurait quitté le même hangar vers 6h du matin, direction le Liban. Les enquêteurs turcs ont notamment mis la main sur l'enregistrement des échanges entre le pilote du second appareil et la tour de contrôle qui confirme la destination Beyrouth où Carlos Ghosn se trouve aujourd'hui.
Anne Andlauer, à Istanbul, la Turquie va envoyer des militaires en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale en difficulté face au maréchal Haftar. Les députés turcs ont approuvé la motion présentée par le président Recep Tayyip Erdogan qui donne un mandat d'un an à l'armée turque pour intervenir en Libye. L'Australie est loin d'en avoir fini avec les incendies. Samedi devrait être une journée noire avec des rafales de vent soutenues et des températures prévues supérieures à 40 degrés. Au moins 18 personnes sont décédées depuis le début de la saison des feux en septembre. Un bilan humain qui pourrait encore s'alourdir car 17 personnes sont portées disparues dans l'état de Victoria. Sur la côte est de l'Australie, une vaste zone est en cours d'évacuation. On fait le point avec notre correspondant Grégory Pless.
Aujourd'hui, des bouchons immenses se sont formés sur les quelques routes encore ouvertes à la circulation dans la région de la South Coast en Nouvelle-Galles du Sud. Les habitants et les vacanciers, nombreux dans cette région touristique, ont été invités à évacuer une zone qui s'étale sur 200 km le long de la côte et qui a été ravagée par les incendies le jour de la Saint-Sylvestre. Mais ça n'est pas facile. Il n'y a pas assez de policiers sur place pour réguler cet énorme trafic. Qui plus est, les stations essence dans le secteur commencent à être à court de carburant. Quant aux 4000 habitants de Malakuta, coincés sur la plage de cette ville de l'état du Victoria depuis le 31 décembre, les secours sont enfin arrivés. 500 d'entre eux partiront demain matin à bord d'un navire affrété par la marine. Il les emmènera dans une zone sûre qui se trouve à 500 km. Mais le voyage qui va durer 20 heures ne sera pas de tout repos. L'armée a prévenu qu'il n'y aurait pas assez de lits à bord pour tout le monde.
Et la fumée des incendies de forêt a parcouru des milliers de kilomètres et atteint la Nouvelle-Zélande, où des glaciers, habituellement blancs, ont pris une nuance de couleur caramel. Dans certaines régions de Nouvelle-Zélande, le soleil est apparu comme un globe rouge ou doré en fonction de l'épaisseur du nuage toxique. Aux États-Unis, l'équipe de Donald Trump se frotte les mains. Elle a récolté des sommes impressionnantes pour financer sa campagne de réélection. Face au président américain, 14 démocrates sont encore dans la course à l'investiture de leur parti. Les candidats font la course aux millions pour financer leur campagne, mais Donald Trump est le champion toute catégorie des collectes de fonds, Grégory Phillips.
Au quatrième trimestre, l'équipe de campagne de Donald Trump a levé 46 millions de dollars, un total de 143 millions pour 2019. Et encore, cette somme ne prend pas en compte l'argent récolté par le Parti républicain. Dans les collectes de fonds, Trump écrase donc tous ses adversaires démocrates, même s'il est vrai qu'ils sont encore 14 en lice et qu'ils doivent donc se partager les dons des sympathisants de leur parti. Dans cette course à l'argent, c'est le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui s'en sort le mieux. 34 millions et demi récoltés au quatrième trimestre, un total de 96 millions pour 2019, essentiellement des petits donateurs. L'ancien maire de South Bend, Pete Buttigieg, encore inconnu il y a un an, réalise aussi un bon score avec 25 millions au dernier trimestre. L'ancien vice-président Joe Biden et la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, n'ont pas encore communiqué leurs résultats. L'argent, évidemment, ne fait pas tout, mais il est indispensable pour poursuivre une campagne américaine et la présidentielle de 2020 s'annonce déjà comme la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis.
Et le seul candidat hispanique à la Maison-Blanche jette l'éponge. Julian Castro, petit-fils d'immigrés mexicains, ancien maire de San Antonio et secrétaire au logement de Barack Obama, n'a jamais réussi à s'imposer face au poids lourd de l'aile gauche du Parti démocrate. Une coalition inédite se met en place en Autriche. À l'issue de 3 mois de négociations, les conservateurs ont fait alliance avec les écologistes et ils viennent de présenter cet après-midi leur pacte de gouvernement. D'après Sébastien Kurz, les deux partis sont parvenus à concilier le meilleur des deux mondes. Précision d'Isorias depuis Vienne.
Le nouvel exécutif comptera plus de femmes que d'hommes, se sont félicités cet après-midi Sébastien Kurz, chef des conservateurs qui s'apprête à 33 ans à redevenir chancelier, et Werner Kogler, le leader des Verts, futur vice-chancelier. Sans surprise, les conservateurs, grands vainqueurs des législatives de septembre dernier, dominent largement cette nouvelle équipe avec la plupart des ministères clés, notamment l'intérieur, les affaires étrangères et les finances. Les Verts, eux, obtiennent 4 portefeuilles, dont un super ministère de l'Environnement qui inclut les transports, l'énergie et les technologies. Les deux partis ont également présenté l'accord qu'ils ont négocié pendant plusieurs semaines, un document de 300 pages dans lequel s'affirment les priorités des deux formations, une ligne ferme sur l'immigration et des baisses d'impôts pour les conservateurs, davantage de mesures contre la corruption et contre le réchauffement climatique pour les Verts. Les écologistes doivent encore approuver cet accord lors d'un congrès extraordinaire ce samedi. S'ils donnent leur feu vert, l'investiture de cette nouvelle équipe devrait avoir lieu la semaine prochaine.
Ni métal, ni béton, la charpente de Notre-Dame de Paris devrait bien être reconstruite à l'identique. Depuis l'incendie de la cathédrale, il y a 8 mois, les experts n'arrivaient pas à s'accorder sur le choix des matériaux, d'autant qu'il y a la pression du temps avec ce délai de 5 ans fixé par le chef de l'État. Rien n'est encore acté officiellement, mais tous les indicateurs semblent favorables à une reconstruction à l'identique, Isabelle Souquet.
Oui, et il a d'ailleurs fallu d'abord démonter quelques idées fausses. Il y a très largement tout le bois qu'il faut dans les forêts françaises, et bien plus encore. Le bois d'origine n'a pas séché pendant des années. Il a au contraire été taillé, écarillé, assemblé alors qu'il était vert. Les prélèvements sur la cathédrale le confirment. Les arbres n'étaient pas non plus centenaires, mais plutôt âgés de 50 à 70 ans. Et selon Marc Druy, président de l'interprofession du bois, la reconstruction à l'identique s'est finalement imposée.
Nous avons appris au contact dans des les architectes en chef des monuments historiques que reconstruire Notre-Dame à l'identique était la meilleure solution et quasiment la seule solution parce qu'il se trouve que la structure de Notre-Dame nécessite une charpente lourde, souple, qui bouge, qui suit un peu les mouvements de la structure générale des murs de Notre-Dame. Quand on dit la reconstruire à l'identique, c'est la reconstruire en chêne, vert, massif, et en utilisant les savoir-faire qui sont dans nos entreprises. Construire ces éléments pour les entreprises, c'est vraiment leur quotidien. Il n'y a aucune difficulté technique pour construire cette charpente. Symboliquement, si on arrivait à montrer sur le parvis de Notre-Dame des chantiers ouverts au public où on peut montrer les savoir-faire, ça serait une chance extraordinaire, même si tout le monde regrette évidemment que la charpente de Notre-Dame ait brûlé.
La filière du bois qui a décidé d'offrir la matière première de la charpente, un coût minime à l'échelle de la reconstruction, mais qui représente 1,5 million à 2 millions d'euros.
Le démontage de l'échafaudage qui menace toujours Notre-Dame devrait commencer d'ici un mois. Au 29e jour de grève contre la réforme des retraites, le taux de grévistes à la SNCF est tombé sous les 7%. Aucun compromis pourtant entre l'exécutif et les syndicats. Ce sont plutôt les problèmes financiers qui font renoncer certains opposants au projet. Mais la CGT Infocom a remis ce matin un chèque de 50 000 euros aux cheminots grévistes de Paris-Sud-Est, une somme prélevée sur la caisse de grève de la CGT qui dépasse maintenant 1,5 million d'euros, Cédric Hermel.
Et certains grévistes ont fait une croix sur leur salaire, d'autres en perdent deux. Bénédicte et Jean sont tous les deux à la SNCF depuis plus de 10 ans.
On savait que ça allait nous tomber dessus assez vite après la grève de l'an dernier. Ça nous a permis de pouvoir anticiper financièrement, de mettre un peu d'argent de côté pour s'inscrire dans la grève là cette année. Mais c'est vrai qu'à l'embauche, moi j'ai le souvenir des anciens qui me disaient clairement « mets ton premier salaire de côté si tu peux pour pouvoir t'inscrire correctement dans la grève ». Non, parce que là clairement, sur la balance, les convictions sont toujours plus lourdes que les pertes financières.
Et elle est compliquée surtout pour son mari qui touche parmi les plus bas salaires de l'entreprise, 53 euros par jour, pendant que Stéphane lui aussi s'attend à des difficultés financières. Il est en grève depuis le 5 décembre, mais n'a pas pu faire d'économie.
J'ai reçu ma fiche de paye du mois de décembre, mais qu'au mois de janvier, ça serait un salaire à zéro. Il y a des sujets, bon, j'ai ma maison qui est en travaux, j'ai reporté une multitude de travaux, parce que je sais très bien que d'ici la fin janvier, je vais être effectivement en grande difficulté.
Les cheminots discutent encore de la répartition des 50 000 euros, pour l'instant réservés aux cheminots qui ont fait grève depuis 10 jours. Pas question de s'arrêter là pour autant. Fabien Villedieu de Sud SNCF, Gare de Lyon.
Quelle que soit la perte d'argent que j'aurai fin décembre, début janvier, dans 10 ou 20 ans, je ne m'en rappellerai même plus. Franchement, si j'ai perdu 3000 euros ou même 4000 euros dans cette histoire, quand je partirai à la retraite, je ne m'en rappellerai même plus. Par contre, si on perd là-dessus, tous les mois, je vais perdre 300 à 400 euros. Tous les mois, j'aurai une piqûre de rappel et je ne veux pas me dire, mais si seulement on avait tenu.
Tous les grévistes présents ce matin à Gare de Lyon ont reconduit le mouvement jusqu'à demain 11h.
Quelques 200 manifestants se sont rassemblés aujourd'hui devant la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique où les expéditions de carburant sont stoppées. Pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites, la CGT Chimie appelle à un durcissement du mouvement à partir de mardi avec des blocages des raffineries, terminaux pétroliers et dépôts pendant 4 jours. La secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher condamne ce type de mobilisation qu'elle qualifie d'illégale. L'immobilier est toujours une valeur refuge pour les Français. L'année 2019 s'est terminée sur des volumes de ventes records et des prix en augmentation constante. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
La principale explication est à chercher du côté des taux historiquement bas.
Oui, on peut aujourd'hui emprunter avec un taux de 1% seulement sur 20 ans, avec une mensualité de 1000 euros. Un ménage peut ainsi acheter un logement de 212 000 euros. Quand les taux étaient à 4,5%, eh bien c'était 40 000 euros de moins. Cet exemple donné par le patron de Century 21, un réseau bien connu, illustre la dynamique à l'œuvre aujourd'hui sur le marché. Et dans un contexte d'incertitude sur l'avenir et de faiblesse des placements financiers sans risque, eh bien vous le disiez, l'immobilier joue à plein son rôle de valeur refuge. D'ailleurs, le profil des investisseurs a rajeuni. On voit ainsi des trentenaires se constituer un patrimoine en achetant de petites surfaces qu'ils relouent ensuite. Mais la baisse des taux n'explique pas tout. La diminution du chômage joue aussi positivement, redonnant des capacités d'emprunt à certains ménages. Alors, cette forte demande s'accompagne d'une augmentation des prix. Elle est très sensible à Paris, où on a franchi le seuil moyen des 10 000 euros le mètre carré. Et on constate une augmentation moyenne de plus de 5% dans les 10 plus grandes villes de France, selon le site Meilleurs Agents. On peut notamment citer Lyon, Nantes, Lille ou encore Toulouse parmi les plus fortes hausses.
Et comment se profile cette année 2020, Anne-Laure ?
Eh bien, pour les professionnels du secteur, on devrait rester sur une tendance similaire, avec un petit ralentissement toutefois de cette hausse des prix. Les taux devraient rester à des niveaux bas, même si, et c'est à surveiller quand même, on assiste en ce moment à une légère remontée dans certains réseaux bancaires.
Anne-Laure Jumet, alors soyons à présent un peu moins terre à terre, car vous allez nous parler, Maxime Tellier, du retour de l'être humain sur la Lune. C'est ce qui nous est promis pour la décennie 2020. Donald Trump a même demandé à la NASA de retourner sur la Lune dès 2024. Un demi-siècle après la mission Apollo, c'est le programme Artemis qui devrait ramener des astronautes sur notre satellite, un Américain et une Américaine. Mais à la différence des années 60, ce programme est international et l'Europe et la France seront de la partie, Maxime.
Ce sera l'aventure spatiale de la nouvelle décennie et la NASA en fait déjà la promotion sur Internet à grand renfort de vidéos.
We're going to the moon to stay by 2024.
Nous allons sur la Lune pour y rester d'ici 2024. Et voici comment.
Le clip, publié sur la chaîne YouTube de la NASA, compte déjà 12 millions de vues. Il passe en revue toutes les nouveautés de ce retour sur la Lune. Fusée plus puissante, nouvelle capsule, nouvelle station orbitale. Mais à la différence du programme Apollo dans les années 60 et 70, les États-Unis ne seront pas seuls dans cette aventure, car l'Europe sera associée. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, a également d'ailleurs publié sa vidéo.
Nous sommes certains d'une chose. Si nous voulons comprendre la Lune, nous devons y retourner. Là-bas, nous mettrons en pratique les leçons apprises à bord de la Station spatiale internationale. Et nous construirons une base semblable à celle que l'on connaît aujourd'hui en Antarctique.
Ces vidéos sont aussi conçues pour faire rêver, bien sûr, mais elles présentent plutôt bien l'objectif des missions à venir. Des objectifs détaillés par Jean-Yves Le Gall, c'est le président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, associé à ce retour sur la Lune.
L'idée est que quand même on voudrait rester plus que quelques dizaines d'heures, donc les Américains disent on va aller sur la Lune pour y demeurer, alors bien sûr c'est quand même du long terme, mais peut-être avoir un habitat un peu plus permanent, faire des études scientifiques qu'on n'a pas vraiment faites lors des 6 missions Apollo, où quand même les astronautes sont passés très très rapidement. Voir si on peut extraire de l'eau. Il y a 50 ans, on ne savait pas qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a. Et puis, se préparer à vivre sur une planète à gravité réduite pour un jour, mais à très long terme, peut-être envisager d'aller sur Mars.
Et l'eau, bien sûr, pourrait être bue par les astronautes. Elle pourrait aussi servir à fabriquer de quoi propulser les fusées qui décolleront vers Mars ou de retour sur la Terre grâce à l'oxygène et à l'hydrogène que l'eau contient. Rester sur place permettrait également de mieux comprendre la Terre, notamment l'apparition de la vie en analysant le sol et le sous-sol lunaire. On sait que l'Europe construira le module de service du vaisseau Orion, sorte de salle des machines, de la capsule qui transportera l'équipage. L'industrie française sera associée.
Le système de commande de la capsule Orion, le module de service, est fait bien sûr en partie par l'industrie française. C'est Airbus, Thales est aussi intéressé dans les expériences lunaires. Et puis on voit bien que les industriels qui travaillent dans le spatial, ce sont autant d'opportunités. Parce que là, l'ESA, donc forte du budget, décidé à Séville, va commencer à passer des contrats, lancer des appels d'offres, et on voit bien que l'industrie française a toute sa place à jouer.
Le budget de l'Agence européenne voté par les 22 pays membres il y a un mois atteint le montant record de 14,4 milliards d'euros pour les 3 ans à venir, de quoi investir suffisamment, mais au-delà des budgets ou de la collaboration technique, l'Europe compte aussi envoyer des humains sur la Lune.
Ça reste à définir, mais il est clair que l'idée, c'est comme nous avons des Européens qui séjournent à bord de la station, qu'à terme, on est aussi des Européens qui puissent aller sur la Lune à partir du moment où, bien sûr, nous participerons à ce programme. Bien sûr, on peut penser à Thomas Pesquet, peut-être y en aura-t-il d'autres, mais enfin, on voit bien que c'est un programme qui est en train de se mettre en place.
Le retour sur la Lune devrait donc être plus coopératif qu'à l'époque d'Apollo, il y a 50 ans, associant de nombreuses nations, le Canada, le Japon également, mais pas la Chine, mise à l'écart par les États-Unis dans le domaine spatial. Pékin a prévu d'aller sur la Lune de façon autonome à partir de 2030.
We are going. Merci Maxime Tellier et votre dossier est disponible en version multimédia sur franceculture.fr. Demain vendredi, le temps sera souvent gris et légèrement pluvieux, mais il y aura de belles éclaircies des Pyrénées au Massif central et sur la Côte d'Azur. À l'exception de rares gelées dans le centre-est, les températures seront douces dès le matin, souvent comprises entre 7 et 11 degrés dans le nord-ouest. Dans l'après-midi, il fera 7 à 9 degrés du nord-est au centre-est, 10 à 14 sur les autres régions. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.